Chapitre 15. Dans la vallée de la Mimente. Ce jour-là, mardi 1er octobre, nous quittâmes Florac tout à fait à la fin de l'après-midi. L'âne et son maître, aussi fatigués l'un que l'autre. Après avoir suivi le Tarnon quelque temps, nous franchîmes un pont de bois couvert pour entrer dans la vallée de la Mimente. Des roches pourpres à pic surplombaient le torrent. De grands chênes, des châtaigniers, se dressaient sur les pentes ou sur les terrasses pierreuses. Çà et là, on voyait un champ rouge de millet ou quelques pommiers tachetés de fruits écarlates. La route passait devant deux hameaux noirs. L'un d'eux, pour la joie du touriste, était dominé par un vieux château. Ici, encore, il était difficile de trouver un bon emplacement pour camper. Sous les chênes ou les châtaigniers, le terrain était en pente rapide, avec une quantité de pierres branlantes. Et quand il n'y avait pas d'arbres, les montagnes descendaient jusqu'au ruisseau par de rouges à pic couverts de bruyère. Le soleil n'éclairait même plus le sommet élevé situé en face de moi. Les cornes des bergers, rappelant les troupeaux à l'étable, emplissait la vallée de longs mugissements. Enfin, je découvris un coin de prairie, en dessous de la route, près d'un coude de la rivière. Après y être descendu, j'attachai provisoirement Modestine à un arbre et je me mis en devoir de reconnaître le voisinage. L'ombre du soir, d'un gris perle, envahissait la vallée. À une petite distance, les formes se confondaient, devenait indistincte et méconnaissable. L'obscurité montait sans arrêt comme si elle s'exhalait du sol. J'approchai d'un grand chêne qui se dressait dans la prairie, tout près du bord de la rivière. À mon vif dépit, des voix d'enfants frappèrent mon oreille et j'aperçus une maison sur l'autre rive, après le tournant. Je fus sur le point de tout empaqueter et d'aller plus loin, mais l'obscurité croissante m'engageait à rester. J'en serais quitte pour ne faire aucun bruit, jusqu'à ce que la nuit fût venue tout à fait, et je comptais sur l'aube pour m'éveiller très tôt le lendemain. Il était vraiment dur d'être gêné par des voisins dans un hôtel aussi vaste. Je choisis un creux sous le chêne pour y faire mon lit. Lorsque j'eus donné sa pitance à Modestine et arrangé mon sac, trois étoiles brillaient déjà, et les autres commençaient à poindre faiblement. Je me glissai jusqu'à la rivière, qui paraissait toute noire au milieu des rochers, et j'y remplis ma gourde. Puis je dînai de bon appétit dans l'obscurité, car je ne voulais pas allumer ma lanterne si près d'une maison. La lune, dont j'avais vu le croissant pâle toute l'après-midi, éclairait doucement le sommet des montagnes, mais aucun rayon ne parvenait jusqu'au fond du vallon où j'étais étendu. Le chêne se dressait devant moi, comme une colonne d'ombre, et au-dessus de ma tête, les étoiles rassérénantes étincelaient au fond de la nuit. Il est impossible de connaître les étoiles sans avoir dormi, comme le disent si bien les Français, à la belle étoile. On peut savoir leur nom, les distances qui les séparent, leur grandeur, et pourtant, ignorer la seule chose qui intéresse l'humanité, leur influence sereine et joyeuse sur les âmes. N'ont-elles pas inspiré presque toute la poésie? C'est bien juste, car elles sont les plus classiques des poètes. C'étaient les mêmes mondes lointains, trouant l'obscurité au hasard comme autant de cierges, ou répandus, pêle-mêle au firmament, comme une poussière de diamants, que contemplaient déjà Roland et Cavalier, au temps où, selon leurs propres paroles, ils n'avaient d'autres tentes que le ciel et d'autres lits que la terre maternelle. Toute la nuit, un vent violent s'engouffra dans la vallée, et les glands pleuvaient sur moi du haut du chêne. Pourtant, cette première nuit d'octobre était douce comme une nuit de mai, et pour dormir, je rejetais ma couverture de fourrure. Je fus très troublé par l'aboiement d'un chien. Je crains cet animal, plus que n'importe quel loup. Il est beaucoup plus courageux, et il est de plus soutenu par le sentiment du devoir. Si vous tuez un loup, on vous prodiguera des louanges et des encouragements. Mais si vous tuez un chien, les droits sacrés de la propriété et les affections domestiques, mène autour de vous un bruit d'enfer pour obtenir juste réparation. Après une journée éreintante, l'aboiement d'un chien semble une note dure et cruelle, qui suffit à vous faire éprouver une vive contrariété. Pour un vagabond comme moi, c'est le représentant du monde sédentaire et respectable, sous sa forme la plus hostile. Il y a quelque chose du clergyman ou de l'homme de loi dans cet animal rempli de prévenance, et s'il n'y avait les pierres pour le tenir en respect, l'homme le plus hardi n'oserait s'aventurer à pied. Je respecte les chiens dans le cercle de la famille, mais sur les chemins, ou lorsque je campe en plein air, je les déteste et les redoute. Je fus éveillé le lendemain, mercredi 2 octobre, par ce même chien, je le reconnus à son aboiement, qui chargeait à fond de train le long du rivage. Puis, lorsqu'il vit que je m'asseyais, il battit en retraite avec la même précipitation. Les étoiles n'étaient pas encore tout à fait éteintes. Le ciel était de ce gris bleu doux et enchanteur des premières lueurs de l'aube. La lumière claire du jour faisait silencieusement la conquête de la terre, et à la crête de la montagne, les arbres se découpaient sur le ciel. Le vent avait tourné au nord et ne venait plus jusqu'à moi au fond de la vallée. Mais tandis que j'achevais mes préparatifs de départ, il chassait un nuage blanc qui fuyait rapidement au-dessus des montagnes. En levant les yeux, je vis avec surprise que ce nuage était illuminé de reflets dorés. Dans ces régions élevées de l'atmosphère, le soleil brillait déjà, comme en plein midi. Si seulement les nuages voyageaient assez haut, nous pourrions contempler le même phénomène tout le long de la nuit, car il ne cesse jamais de faire jour dans les champs de l'espace. Tandis que je commençais à remonter la vallée, un coup de vent surgit de l'Orient, s'y engouffra, bien que les nuages d'en haut continuassent à courir dans une direction à peu près opposée. Après avoir fait quelques pas, j'aperçus toute une montagne dorée par le soleil, et encore un peu plus loin, entre deux pics, je vis un étincellement éblouissant apparaître dans le ciel. Je me trouvais une fois de plus face à face avec l'immense feu de joie qui est le centre de tout notre univers. Je ne rencontrais qu'un être humain ce matin-là, un voyageur à l'air sombre, d'allure militaire, qui portait un sac à gibier en bandoulière. Il fit une remarque qui vaut la peine d'être mentionnée comme je lui demandais s'il était protestant ou catholique. « Oh, répondit-il, je n'ai pas honte de ma religion, je suis catholique. » Il n'en avait pas honte. Cette phrase vaut à elle seule une indication de statisticien. Elle est bien le langage d'une minorité. Je songeais avec un sourire à Baville et ses dragons. Vous pouvez pendant un siècle faire écraser une religion sous les sabots de vos chevaux et après ce traitement énergique la laisser plus vivante que jamais. L'Irlande est toujours catholique, les Cévennes toujours protestantes. Ce ne sont pas un plein panier d'articles de loi, ni les coups de crosse, ni le piétinement des chevaux d'un régiment qui changeront d'un iota les convictions d'un laboureur. D'apparence, les gens de la campagne n'ont pas beaucoup d'idées, mais celles qu'ils ont sont solidement enracinées et ne font que croître et prospérer pendant une persécution. Un vieux brave homme de paysan, après avoir peiné laborieusement à la sueur de son front au plein soleil de midi, travaillé la nuit sous le ciel étoilé, arpenté les collines et les forêts, finit par se sentir en harmonie avec les puissances de l'univers, et son Dieu lui paraît un ami très proche. Comme mon frère de Plymouth dans ces montagnes, il connaît le Seigneur. Sa religion n'est pas fondée sur la logique, c'est la poésie de l'expérience humaine, la philosophie de l'histoire de sa vie. Dieu est apparu à cet homme simple au long de ses jours, comme une puissance sans égale, un immense soleil éblouissant. Il est devenu l'essence même de toutes ses réflexions. On peut bien d'autorité changer des croyances et des dogmes, proclamer une nouvelle religion en sonnant de la trompette. Le paysan a ses idées à lui et s'y tiendra obstinément quoi qu'il puisse arriver. Il est catholique ou protestant ou frère de Plymouth par ce même principe irrévocable qui fait qu'un homme n'est pas une femme, ni une femme un homme. Car il ne pourrait varier dans sa foi à moins d'avoir pu extirper de sa mémoire tout le souvenir du passé, ou de changer, littéralement, de peau.